Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Entre soir, manque de démocratie et de parité, polémique Polanski. La direction de l'Académie des Césars était jugée trop vieillissante. Elle démissionne collectivement. Annonce faite hier soir que nous décrypterons dès le début de ce journal.
Et puis vous entendrez ensuite la colère et le dépit d'une infirmière dans un hôpital public. Le personnel hospitalier se mobilise en masse aujourd'hui pour demander plus de moyens.
Des chercheurs ont étudié comment guérir le stress post-traumatique des rescapés du 13 novembre. Certains développent ce trouble. D'autres non. L'étude tente de comprendre pourquoi, compte rendu à suivre.
Et puis nous reviendrons sur les accusations qui pèsent sur la romancière turque Asli Erdogan. Son procès débute aujourd'hui à Istanbul, mais elle est à Paris.
Dans un gros quart d'heure après ce journal, Frédéric Saïs se demandera si les politiques sont désormais obligés d'afficher leurs relations amoureuses. Son billet politique à 8h17. Se saborder plutôt que d'être obligé de se réformer. La direction de l'Académie des Césars annonce sa démission collective à 2 semaines de la cérémonie. Exit donc les 47 membres, jusque-là des hommes majoritairement, cooptés et nommés à vie. Les critiques sur leurs épaules étaient trop lourdes. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Ils démissionnent donc, mais le communiqué Diane de la direction de l'Académie est des plus concis.
En quelques mots, la direction explique qu'elle s'en va pour que la fête du cinéma reste une fête. La décision a été prise à l'unanimité. Et dans la foulée, le ministre de la Culture, Franck Riester, demande que la future équipe soit plus démocratique et surtout qu'elle représente le cinéma français dans toute sa diversité.
Parce que justement, Diane, ce manque de diversité et de démocratie était au cœur des tensions depuis un mois.
Effectivement, les tensions sont apparues vers la mi-janvier à l'occasion du dîner des révélations. Chaque année, les Césars y invitent les espoirs du cinéma français. Chacun est parrainé par un artiste plus connu de son choix. Mais cette année, deux d'entre elles ont été refusées, la romancière Virginie Despentes et la réalisatrice Claire Denis. La Société des réalisateurs de films dénonce une décision arbitraire. L'Académie présente alors ses excuses sans donner plus d'explications. Deuxième acte de la crise, 2 semaines plus tard, J'accuse de Roman Polanski est nommé 12 fois au César. Mais à la sortie du film en novembre, le réalisateur était accusé pour la 12e fois de viol. Face aux critiques des associations féministes, le président des Césars, Alain Terzian, se défend. L'Académie n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales, dit-il.
Et ce qui finit d'achever la direction des Césars, c'est une tribune publiée en début de semaine, lundi dernier.
Dans Le Monde, 400 acteurs et réalisateurs réclament une réforme profonde de l'Académie. Ils dénoncent la cooptation à vie des membres de la direction, son opacité, de manière générale un système élitiste, loin de refléter la vitalité du cinéma français. La réalisatrice Catherine Corsini fait partie des signataires.
C'était une association dont les statuts sont complètement vétus, extrêmement verrouillés, avec des membres à vie qui étaient quand même assez vieillissants. Ce système était obsolète et ne correspondait plus du tout à la pratique aujourd'hui, j'allais dire, d'une association qui doit être saine. On avait envie de donner un coup de balai et d'amener de la modernité, c'est tout simplement ça.
Dans la pratique maintenant, une assemblée générale devrait avoir lieu après la prochaine cérémonie des Césars. Au menu, l'élection d'une nouvelle équipe de direction et la refonte profonde des statuts.
Merci beaucoup Diane Berger pour ses premières explications et réactions ce matin. C'est aussi une question d'entre-soi qui secoue le pendant musical des Césars en ce moment. Les victoires de la musique auront lieu ce soir et certains se sont émus de la disparition de certaines catégories. Exit le rap, le rock, l'électro, les musiques urbaines et les musiques du monde. Les victoires suppriment 5 catégories sur 13 cette année et sont donc accusés d'un manque de diversité. Le message est le même, c'est la méthode qui change. Les personnels hospitaliers se mobilisent aujourd'hui, 11 mois après le début de la grève aux urgences. Jusque-là, ils protestaient ouvertement contre le manque de moyens pour l'hôpital public. En ce 14 février, ils vont lui prouver leur amour et descendent encore dans la rue. Ils invitent d'ailleurs tout un chacun à faire de même. Le plan d'urgence proposé par le gouvernement il y a 3 mois n'y change rien. Pire encore, la situation continue de se dégrader dans les hôpitaux. Écoutez à ce propos l'infirmière Yasmina Ketal. Elle travaille en région parisienne à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine, et elle est membre du collectif Interurgence.
On se retrouve dans la plupart des services d'urgence, dont le mien, dans une situation qui est plus grave qu'au début de la grève. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé en janvier, alors entre les congés maternités, les non-remplacements, les départs, à 16 infirmiers sur 24. à tenir un mois de janvier avec un tiers de nos effectifs en moins. Tout le reste, en fait, ne peut pas être fait. Les commandes, voilà, toute la petite technique qui faisait qu'un service pouvait à peu près rouler, et ben là, on peut plus le faire. Donc, on a un service, on a l'impression qu'il part un peu en décrépitude et on n'a plus de perspective. La seule chose qu'on a obtenue, c'est des appareils à glycémie individuelle. Il y a eu des reportages où on expliquait que c'était insupportable d'en avoir qu'un ou deux pour tout le service. Mais en fait, c'est même pas quelque chose qui est payé. C'est quelque chose qui est donné par les laboratoires. Donc, c'est la seule chose qu'on a obtenue et ça n'a même pas coûté un rond à l'hôpital, en fait. Après, on n'a toujours pas de pied à perfusion qui roule. Quand on doit faire un électrocardiogramme, des fois, on doit en prendre un, deux, trois appareils parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on continue à travailler dans des modes dégradés. Et ben, si Mme Buzyn ne met pas sur la table des mesures rapides, et ben, cette question de manque de perspective de la part des soignants et de manque d'avenir, en fait, elle continue d'avoir ses effets. Et ses effets, c'est quoi ? C'est perdre des gens au passage parce qu'en fait, ils en ont marre d'être maltraitants, ils en ont marre d'être maltraités.
Des propos recueillis par Tara Schlegel avant une mobilisation aujourd'hui donc de toutes les professions à l'hôpital. Je précise que plus de 800 chefs de service ont déjà démissionné de leurs fonctions administratives un peu partout en France. La ministre de la Santé a pour le moment prévu de revoir les médecins démissionnaires à la mi-mars. Eux aussi se mobilisent et utilisent la Saint-Valentin aujourd'hui. Sous la bannière « Justice mon amour », les avocats comptent distribuer des roses aux greffiers et aux magistrats. Un geste d'apaisement pour leur sixième semaine de grève contre la réforme des retraites. C'est une étude inédite qui est en partie dévoilée par l'INSERM aujourd'hui. Des chercheurs ont, depuis les attentats du 13 novembre 2015, accompagné et observé les victimes qui ont survécu. Il s'agit en fait de comprendre les mécanismes du trouble de stress post-traumatique, Antoine Marette.
Des images qui reviennent régulièrement hanter l'esprit de certains survivants du 13 novembre, des odeurs, des sons ou encore des lieux qui leur sont insupportables. Le trouble de stress post-traumatique isole ces victimes qui se renferment sur elles-mêmes. Mais tout le monde n'est pas égal face à ce trouble. Francis Stache est neuropsychologue et il est co-responsable du programme de recherche 13 novembre.
Ils ont vécu le même événement. Ils l'ont vécu de la même façon, avec la même acuité. Et ils ont été confrontés aux mêmes scènes de terreur. Et pourtant, à peu près la moitié des personnes ont développé un syndrome psychopathologique avec ces intrusions qui leur rendent la vie vraiment extrêmement difficile et l'autre moitié, non.
Pierre Gagnepin est chercheur à l'INSERM. Il dirige l'étude Remember qui cherche à comprendre cette inégalité face aux troubles de stress post-traumatique. Elle s'intéresse pour cela à des personnes exposées aux attentats du 13 novembre. Leur cerveau a été étudié lors d'IRM.
Ce qu'on observe, c'est que la capacité du cerveau à venir réguler les zones de la mémoire à mettre le frein sur l'activité de la mémoire est beaucoup plus importante chez les individus qui n'ont pas développé de stress post-traumatique par rapport à ceux qui en ont développé un. C'est-à-dire que ce mécanisme-là de contrôle serait éventuellement lié à cette capacité de résilience.
Le souvenir traumatique pourrait être ainsi comparé à un disque rayé. Et selon les chercheurs de Remember, le problème ne proviendrait pas seulement du disque rayé, mais aussi du bras qui lie ce disque. Autrement dit, les victimes de troubles post-traumatiques n'auraient pas seulement un problème lié à la mémoire, mais un problème du mécanisme qui contrôle la mémoire. Si cette hypothèse venait à se confirmer, cela ouvrirait de nouvelles pistes thérapeutiques pour les personnes qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique.
C'était Antoine Marette pour France Culture. Des nouvelles des Français rapatriés de Chine, de Wuhan, ces derniers jours. Après 14 jours à huis clos dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, près de Marseille, ils ont commencé ce matin à quitter le site. Aucune de ces 181 personnes n'est contaminée par le virus. Tout autre bilan en Chine, en revanche, concernant ce coronavirus, le Covid-19, le bilan est instable mais grandissant tout de même. Près de 1380 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie en décembre.
8h08 sur France Culture. La suite du journal de Clara Lecoq-Réal, la conférence annuelle sur la sécurité internationale débute aujourd'hui en Allemagne, à Munich.
Oui, avec des représentants américains, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo, des représentants canadiens, russes, iraniens également, avec des chefs d'entreprise aussi, dont le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Un rendez-vous à Munich qui sera l'occasion pour le Français Emmanuel Macron d'évoquer la coopération militaire franco-allemande. Elle reste finalement au beau fixe, Nathalie Hernandez.
Après un long bras de fer politico-industriel entre Paris et Berlin, les députés allemands ont fini par dire oui avant-hier au financement de la première étape du SCAF, le futur avion de combat qui doit remplacer à terme le Rafale et l'Eurofighter. 77 millions d'euros vont être débloqués en vue de la construction d'un démonstrateur d'ici 2026. Ouf de soulagement à 48 heures de la venue du président français à Munich. La bonne entente franco-allemande est donc sauvegardée. Mais les parlementaires outre-Rhin restent méfiants. Pour éviter une trop grande mainmise de la France, ils ont posé des conditions sur l'autre projet entre les deux pays, celui du char MGCS. Si les Français sont chefs de file sur le SCAF, ce sont les Allemands qui vont conduire celui du MGCS. Ils veulent que les deux programmes avancent en parallèle et que les entreprises allemandes soient tout aussi gagnantes que les Françaises. À l'Élysée, on se dit confiant, cette conférence à Munich sera justement l'occasion de convaincre les Allemands que la France ne cherche pas à servir uniquement ses propres intérêts.
Elle est écrivaine, journaliste, elle est engagée dans la défense des droits de l'homme, notamment pour la cause kurde, et elle est turque. Asli Erdogan sera jugée par la justice turque aujourd'hui, poursuivie pour la publication de 4 articles considérés par le régime comme de la propagande terroriste. Elle risque jusqu'à 9 ans de prison, mais elle ne sera pas présente à Istanbul, Pauline Joss.
C'est depuis Paris qu'Asli Erdogan va suivre son procès reporté à de multiples reprises par la justice turque. L'autrice vit exilée à Francfort en Allemagne depuis 2017. Un exil forcé après 4 mois derrière les barreaux de la prison pour femmes de Bakirköy dans la banlieue d'Istanbul. Elle avait alors été arrêtée en même temps qu'une vingtaine d'autres journalistes du Özgür Gündem, un journal pro-kurde dans le contexte des purges qui ont suivi le coup d'état manqué de juillet 2016. Elle racontait sa détention dans l'émission de François Bunel, La Grande Librairie, en 2017.
En prison, même avec un procès au-dessus de ma tête, ce qui voulait dire que peut-être je ne ressortirais pas vivante, je n'étais pas réduite au silence. Je continuais d'écrire de petites notes. J'écrivais sans réfléchir, de façon automatique. C'est bien le signe que je suis un vrai écrivain. Ma foi dans les mots est inébranlable.
La date de son procès, ce 14 février, elle n'en a eu connaissance que tardivement, ce qui a compliqué la préparation de sa défense, mais aussi limité sa force de frappe pour alerter l'opinion sur son sort et plus largement sur celui de la liberté d'opinion dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.
Et sur le sujet, vous pouvez réécouter le temps du débat autour d'Emmanuel Laurentin hier soir, débat autour de la liberté de conscience en Turquie. Il est revenu dans son pays pour remobiliser ses troupes. L'opposant vénézuélien Juan Guaido y était de retour en début de semaine après une tournée internationale. Mais mardi, lors de son arrivée à l'aéroport près de Caracas, son oncle qui l'accompagnait a été arrêté. Juan Marquez l'avait suivi tout au long de sa tournée. Appréhendé à la sortie de l'avion, il est accusé d'avoir ramené notamment des explosifs, ce que démentent ses proches, Benjamin Delisle.
Pendant plus de 24 heures, personne ne savait où se trouvait Juan Marquez. Mercredi soir, ses proches ont finalement été informés qu'il avait été transféré devant un tribunal après avoir été détenu au siège de la direction du contre-espionnage militaire de Caracas. C'est Diosdado Cabello, président de l'Assemblée nationale constituante, qui a révélé à la télévision les faits qui lui sont reprochés.
Il avait avec lui des lampes de poche tactiques qui contenaient, dans les compartiments des piles, des substances chimiques de nature explosive. Il avait des capsules de recharge de parfum qui contenaient aussi des substances chimiques explosives, sans doute du C4.
Des accusations rejetées notamment par la compagnie aérienne portugaise avec laquelle il voyageait. Dans un communiqué, la TAP précise qu'il est impossible de monter dans ces avions avec de tels explosifs. Selon l'avocat de Juan Marquez, Joel Garcia, il s'agit d'un coup monté.
Il n'est ni auteur ni complice de ces faits. Ce qui est certain, c'est que Juan José Marquez est un instrument pour faire pression sur Juan Guaido.
L'opposant dénonce, je cite, « l'enlèvement de son oncle et tient Nicolas Maduro directement responsable de tout ce qu'il subira pendant sa détention ».
C'est pour l'instant une seule donnée qui ne permet pas de la lier au réchauffement climatique, mais elle inquiète tout de même. En début de mois, l'Antarctique a enregistré une température record à plus de 20 degrés au sud du Chili. Et c'est pour protéger la planète du dérèglement climatique que certaines personnes ont choisi de ne pas faire d'enfants. Selon elle, les problèmes environnementaux proviennent de notre trop grande présence sur Terre, une planète surexploitée avec 10 milliards d'humains en 2050. Véronique Roberotte a rencontré pour le grand reportage de la rédaction aujourd'hui Maël et Pierre, 28 ans chacun, proches du mouvement Alternatiba. Elle est orthophoniste, lui chercheur. Ils ont décidé de ne pas faire d'enfants et ils s'en expliquent.
On était au départ plutôt dans l'idée d'avoir des enfants. Et du coup, c'est il y a 2 ans que c'est une réflexion qui a commencé à venir et du coup qui a mûri. Et effectivement, on a beaucoup de chance parce qu'elle a mûri dans la même direction.
On est vraiment passé d'une, je dirais tous les deux, d'écologistes un peu normaux à vraiment une prise de conscience radicale de l'état du monde actuel. Et s'en est ensuite en fait la réflexion sur les enfants assez naturellement. Et assez vite, je dirais, on a eu les mêmes réflexions qui sont nourries mutuellement, mais c'était plutôt en phase.
La catastrophe écologique qui va arriver de manière quand même certaine dans les 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir, rien que c'est une toute petite partie des choses qui vont être très compliquées, rien que le réchauffement climatique qui, de manière certaine, ne va pas s'arrêter à 1,5 degré, c'est au minimum 2 degrés de plus qu'on va avoir en manière globale. Et donc en fait, ça va être très compliqué au niveau des catastrophes naturelles qui vont arriver, au niveau de l'agriculture, sachant qu'on a les données. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Du coup, ça serait beaucoup trop angoissant, en fait.
C'est-à-dire... Pour sentir de l'angoisse.
Ah ouais, bien sûr. Déjà pour nous, quelle vie on va avoir dans 30 ans, mais du coup, quelle vie vont avoir les enfants d'aujourd'hui ?
Ne pas faire d'enfants, est-ce le geste écolo ultime ? Question posée ce soir par le grand reportage de Véronique Rebeyrotte, diffusé à partir de 17h sur France Culture. Il est réalisé grâce à Annie Hibro et sera suivi d'un débat autour de Tarache Legal. La météo de ce vendredi, à présent, avec un retour au calme. Quelques pluies pourraient tomber sur la pointe bretonne. Ce matin, comptez 6 degrés à Lille, 8 à Strasbourg, 9 à Paris, Rennes et Lyon, 11 degrés à Bordeaux et jusqu'à 17 degrés dans la matinée à Nice.